Annie. Première partie, chapitre 3. Sous le ciel d'un bleu sombre, les trois fenêtres du rez-de-chaussée jetaient des lueurs violentes qui se perdaient au milieu des lilas et le long de l'allée, dans l'air tranquille du soir. Des lanternes de papier suspendues aux branches illuminaient le chemin depuis la loge du concierge jusqu'à la maison, éclairant de leur lumière orangée les fleurs printanières qui commençaient à s'ouvrir dans les plates-bandes. Pendant de longues années, on était entré directement dans la salle à manger par une porte vitrée s'ouvrant sur le jardin. Mais quand Madame Barinck avait organisé ses soirées, il lui avait fallu un vestibule qu'elle avait trouvé dans la cuisine, devenu un hall, comme elle voulait qu'on dît en insistant sur la prononciation « hall ». Et pour que cette transformation fût complète, le hall avait été meublé d'ustensiles plus décoratifs peut-être qu'utile, mais qui lui donnait un caractère. Dans la haute cheminée, remplaçant l'ancien fourneau, un grand coquemard à biberon, avec des armoiries quelconques sur son couvercle, et au mur des panoplies d'armes de théâtre ou d'objets bizarres que les grands magasins vendent aux amateurs atteints du mal d'exotisme. Quand Barinck entra dans le hall, dont la porte était grande ouverte, un feu de fagot venait d'être allumé sous le coquemard. Peut-être n'était-il pas très indispensable par le temps doux qu'il faisait, mais il était hospitalier. Au bruit de ses pas, sa fille parut. « Comme tu es en retard, » dit-elle en venant au-devant de lui, « tu n'as pas eu d'accident. Oh, »« J'ai été retenu par M. Chaberton, » répondit-il en l'embrassant tendrement. « Retenu, » dit Mme Barinck, survenant, « un jour comme aujourd'hui. » Il expliqua par quoi il avait été retenu. « Je ne te fais pas de reproche, mais il me semble que tu devais expliquer à M. Chaberton que tu ne pouvais pas rester. Ce n'est pas assez de nous avoir laissés ruinés par lui. Maintenant, comme un mouton, tu supportes qu'il t'exploite misérablement ?» Certes, non. Elle ne faisait pas de reproche à son mari. Seulement, depuis 20 ans, elle ne lui adressait pas une observation sans la commencer par cette phrase qui, dans sa brièveté, en disait long. Car enfin, de combien de reproches n'eût-elle pas pu l'écraser si elle n'avait pas été une femme résignée? « Tu n'as pas dîné, n'est-ce pas ? » demanda Annie en interrompant sa mère. « Non, nous n'avons pas pu t'attendre. Je le pense bien. D'ailleurs, j'avais chargé Barnabé de vous prévenir. »« Monsieur Barnabé se sera aussi laissé retenir, » dit Madame Barinck. « Va dîner, » interrompit Annie. Comme il se dirigeait vers la salle à manger qui faisait suite au hall, sa femme le retint. « Crois-tu que nous avons pu laisser la table servie ? » dit-elle. « Ton dîner est dans la cuisine. »« Au chaud, » dit Annie. « Je vais m'habiller, » dit Madame Barinck, qui était en robe de chambre. « Je n'ai que le temps avant l'arrivée de nos invités. » Il passa dans la cuisine, qui était un simple appentis en planche avec un toit de carton bitumé, appliqué contre la maison, lors de la création du hall. Et comme personne ne devait jamais pénétrer dans cette pièce, l'ameublement en était tout à fait primitif. Une petite table, une chaise, un fourneau économique en tôle monté sur 3 pieds, dont le tuyau sortait par un trou de la toiture, c'était tout. « Veux-tu prendre ton assiette dans le fourneau ? » dit Annie. « Je ne peux pas entrer. »« Pourquoi donc ?» Il se retourna vers elle, car bien qu'en arrivant il l'eût embrassée d'un tendre regard, en même temps que des lèvres, il n'avait vu d'elle que les yeux et le visage, sans remarquer la façon dont elle était habillée. Son examen répondit à la question qu'il venait de lui adresser. Sa robe rose était en papier à fleurs plissées, qu'une ceinture en moire maïs serrait à la taille, et, avec une pareille toilette, elle ne pouvait évidemment pas entrer dans l'étroite cuisine où elle n'aurait pas pu se retourner sans craindre de s'allumer au fourneau. Ce fut cette pensée qui instantanément frappa l'esprit du père. « Quelle folie ! » s'écria-t-il. « Pourquoi folie ? » parce que si tu approches d'une lumière ou du feu, tu es exposé au plus effroyable des dangers. Je ne m'en approcherai pas. Oh, qui peut savoir? Moi. Pense-t-on à tout? Quand on veut, oui. Tu vois bien que je ne te sers pas ton dîner. Sois donc tranquille, et ne t'inquiète que d'une chose. Cela me va-t-il? Regarde un peu. » Elle recula jusqu'au milieu du hall, sous la lumière d'un petit lustre hollandais en cuivre dont l'authenticité égalait celle du Coquemart. « Eh bien, » demanda-t-elle, « puisqu'il est convenu qu'on portera ce soir des toilettes de fantaisie, en pouvais-je inventer une plus originale? Et, ce qui a bien son importance pour nous, moins cher. Tu sais, pas ruineux le papier à fleurs. » Tout en mangeant sur le coin de la table la tranche de bouillie qu'il avait tirée du fourneau, il regardait par la porte restée ouverte sa fille campée devant lui, et bien que ses craintes ne fussent pas chassées, il ne pouvait pas ne pas reconnaître que cette toilette ne fut vraiment trouvée à souhait pour rendre Annie tout à fait charmante. Il n'avait certainement pas attendu jusque-là pour se dire qu'elle était la plus jolie fille qu'il eût vue, mais jamais il n'avait été plus vivement frappé qu'en ce moment par la mobilité ravissante de sa physionomie, l'éclair de son regard, la caresse de ses grands yeux humides, la finesse de son nez, la blancheur, la fraîcheur de son teint, la souplesse de sa taille, la légèreté de sa démarche. Comme elle lisait ce qui se passait en lui, elle se mit à sourire. « Alors, tu ne grondes plus ?» dit-elle. « Je le devrais. Mais tu ne peux pas. Sois tranquille. Et dis-toi qu'aujourd'hui, la chance est avec nous. Pouvions-nous souhaiter une plus belle soirée que celle qu'il fait en ce moment? Un ciel plus clair, un temps plus assuré? Personne ne nous manquera. Tu tiens donc bien à ce qu'il ne manque personne? Si j'y tiens, mais est-ce que ce n'est pas précisément parmi ceux qui manqueraient que se trouverait mon futur mari? Peux-tu rire avec une chose aussi sérieuse que ton mariage ?» Elle quitta le milieu du hall et vint s'appuyer contre la porte de la cuisine, de façon à être plus près de son père, mieux avec lui, plus intimement. « Ne vaut-il pas mieux rire que de pleurer ?» dit-elle. « D'ailleurs, je ne ris que du bout des lèvres, et ce n'est pas sans émotion, je t'assure, que je pense à mon mariage. Pendant longtemps, maman, qui me voit avec des yeux que les autres n'ont pas, sans doute, s'est imaginé que je n'aurais qu'à me montrer pour trouver un mari. Et elle me l'a dit si souvent que je l'ai cru comme elle. Il y avait quelque part, n'importe où, une collection de princes charmants qui m'attendaient. Le malheur est que ni elle ni moi n'ayons pas trouvé le chemin fleuri qui conduit à ce pays de féerie, et que nous soyons restés rue de l'Abreuvoir, où nous attendons des prétendants, s'il en vient, qui certainement ne seront pas princes, et qui peut-être ne seront même pas charmants. S'ils ne sont pas charmants, tu ne les accepteras pas. Qui te presse de te marier? Tout, mon âge et la raison. À 21 ans, il n'y a pas de temps de perdu. Cela dépend pour qui. À 20 ans, une fille sans dot est une vieille fille, tandis qu'à 24 ans, celle qui a une dot est encore une jeune fille. Or, je suis dans la classe des sans dot, et même dans celle des sans le sou. Voilà pourquoi je voudrais qu'il n'y eût point de hâte dans ton choix. Si tu es sans dot aujourd'hui, notre situation peut changer demain, ou, pour ne rien exagérer, bientôt. J'ai tout lieu de croire qu'on va m'acheter le brevet de ma théière, et si ce n'est pas la fortune, au moins est-ce l'aisance. Les expériences instituées sur la ligne de l'Est pour mon système de suspension des wagons ont donné les meilleurs résultats et supprimé toute trépidation. Les ingénieurs sont unanimes à reconnaître que mes menottes constituent une invention des plus utiles. De ce côté, nous touchons donc aussi au succès, et c'est ce qui me fait te demander d'avoir encore un peu de patience. Je t'assure que je ne doute pas de l'excellence de tes inventions. Mais quand se réaliseront-elles? Demain? Dans 5 ou 6 ans? Tu sais, mieux que personne, qu'en fait d'invention Tout est possible, même l'invraisemblable. Dans 6 ans, j'aurai 27 ans. Quel mari voudrait de moi? Laisse-moi donc prendre celui que je trouverai, même si c'est demain, alors que je ne suis encore que la pauvre fille sans le sou, qui n'a pas le droit de montrer les exigences qu'aurait la fille d'un riche inventeur. As-tu donc des raisons de penser que parmi nos invités il y en ait qui veuillent te demander? Il suffit qu'il puisse s'en trouver un pour que je souhaite que celui-là ne soit pas empêché de venir ce soir. L'année dernière, les invitations avaient été faites de telle sorte que les jeunes gens ne voulaient danser qu'avec les femmes mariées, et les hommes mariés qu'avec les jeunes filles. Cette année, les femmes mariées étant rares, il faudra bien que les jeunes gens viennent à nous, et j'espère que dans le nombre, il s'en rencontrera peut-être un qui ne considérera pas le mariage comme une charge au-dessus de ses forces. Je t'assure que je ne serai ni difficile, ni exigeante. Qu'ils disent un mot, j'en dirai 2. Et quoi, ma pauvre enfant, en es-tu là?
Là, c'est-à-dire revenu des grandes espérances de maman?
Oui. C'est peut-être drôle que ce soit la fille et non la mère qui jette un clair regard sur la vie. Cependant, c'est ainsi. Du jour où j'ai compris que je devais me marier, j'ai fait mon deuil de mes idées et de mes rêves de petite fille. Et c'est au mariage lui-même que je me suis attachée, plus qu'au mari. Te dire que j'ai accepté cela gaiement ou indifféremment ne serait pas vrai. Il m'en a coûté, beaucoup même. Mais je ne suis pas de celles qui ferment les yeux obstinément parce que ce qu'elles voient leur déplaît, les blesse ou les inquiète. J'ai reçu ainsi plus d'une leçon. La mort de M. Touchard a été la plus forte. On pouvait croire qu'il vivrait jusqu'à 90 ans et marierait ses filles comme il voudrait. Il est mort à 55 et Berthe chante dans un café-concert de Toulon, Amélie dans un de Bordeaux. Que deviendrions-nous si nous te perdions? Je n'aurais pas même la ressource de Berthe et d'Amélie puisque je ne sais pas chanter.
Ne parle pas de cela, c'est mon angoisse.
Il faut bien que je te dise pourquoi je tiens à me marier, que tu ne crois pas que c'est par toquade ou pour me séparer de toi. Assuré que nous vivrons encore longtemps ensemble, je t'assure que j'attendrai bien tranquillement qu'un mari se présente sans me plaindre de la médiocrité de notre existence. Mais cette assurance, je ne peux pas l'avoir, pas plus que tu ne peux me la donner. Des gens que nous connaissons, M. Touchard était le plus solide, ce qui n'a pas empêché que la maladie l'emporte. Qu'adviendrait-il de nous? Pas un sou, pas d'appui à demander, puisque nous n'avons d'autres parents que mon oncle Saint-Christo qui ne ferait rien pour nous, n'est-ce pas?
Hélas!
Alors, comprends-tu que l'idée de mariage me soit entrée dans la tête? Tu as un outil dans les mains, au moins.
Mais non, je n'en ai pas, puisque je n'ai pas de métier. Du talent?
Un tout petit talent, peut-être. Et encore, cela n'est pas prouvé. Ce qui l'est, c'est que je fais difficilement des choses faciles quand, pour gagner notre vie, ce serait précisément le contraire que je devrais faire. Donc, il me faut un mari. Et, si je peux espérer en trouver un, ne pas laisser passer l'âge où j'ai encore de la fraîcheur et de la jeunesse. Voilà pourquoi je suis pressé. Pour cela, et non pour autre chose. Car tu dois bien penser que je ne suis pas assez folle pour m'imaginer que ce mari va me donner une existence large, facile, mondaine, qui réalise des rêves que j'ai pu faire autrefois, mais qui maintenant sont envolés. Ce que je lui demande à ce mari, c'est d'être simplement l'appui dont je te parlais tout à l'heure, et de m'empêcher de tomber dans la misère noire dont j'ai une peur horrible, ou de rouler dans les aventures de Berthe et d'Amélie Touchard, dont j'ai plus grand peur encore. La vie que cela nous donnera sera ce qu'elle sera, et je m'en contenterai. Il m'aidera, je l'aiderai. Il travaillera, je travaillerai. Et comme, revenu de mes hautes espérances, j'aurai le droit d'abandonner le grand art pour le métier, je pourrai gagner quelque argent,
qui sera utile dans notre ménage. Ce mari est introuvable ?
J'imagine que non.
As-tu quelqu'un en vue ?
10, 20, ceux que je connais.
Et surtout ceux que je ne connais pas. Mais sans rien de précis, bien entendu.
Juliette doit amener des amis de son frère, et ceux-ci, des camarades de bureau.
Employés des finances, employés de la ville, c'est en eux que j'espère.
Plusieurs qui écrivent dans les journaux se feront une position plus tard.
Pour le moment, leurs ambitions sont modestes, et dans le nombre, il peut s'en rencontrer,
je ne dis pas beaucoup, mais un me suffit, qui comprenne qu'une femme intelligente sans le sou est quelquefois moins chère pour un mari qu'une autre qui aurait des goûts et des besoins en rapport avec sa dot.
Si je trouve celui-là, s'il ne me répugne pas trop, s'il apprécie à sa juste valeur ma robe en papier,
si, si,
mon mariage est fait. Tu vois donc qu'avec toutes ces conditions, il ne l'est pas encore.
Tout cela avait été dit avec un enjouement voulu qui pouvait tromper un indifférent, mais non un père.
Aussi l'écoutait-il ému et angoissé, sans penser à manger, ne la quittant pas des yeux, cherchant à lire en elle et à apprécier la gravité de l'état que ses paroles lui révélaient.
Madame Barinck, en descendant de sa chambre, les interrompit.
« Comment ? » s'écria-t-elle en trouvant son mari attablé. « Tu n'as pas encore fini ? Et toi, Annie, tu bavardes avec ton père au lieu de le presser de manger ? »
« J'ai fini. » dit-il en s'emplissant la bouche.
« Eh bien, range ton assiette, que Barnabé trouve tout en ordre, et va t'habiller, tu ne seras jamais prêt.
N'entre pas dans la chambre, ta chemise et tes vêtements sont dans le débarras. »«
Je te nouerai ta cravate, » dit Annie.
« Est-ce que tu crois que je n'ai pas le temps de fumer une pipe ? » demanda-t-il en s'adressant à sa femme.
« Il ne manquerait plus que ça. »
« Dans le jardin. »
Devant la colère de sa mère, Annie intervint.
« On peut arriver d'un moment à l'autre, » dit-elle.
« Oh, alors je vais m'habiller. »«
Il y a longtemps que cela devrait être fait, » dit Madame Barinck.
À ce moment, on entendit un bruit de pas lourd, écrasant le gravier du chemin, et Barnabé parut sur le seuil du hall, tenant à la main un papier bleu.
« Une dépêche qui vient d'arriver et que la concierge m'a remise pour vous, Monsieur Barinck, » dit-il.
Mais ce fut Madame Barinck qui la prit et l'ouvrit.
« Qui nous manque de parole ? » demanda Annie.
« Ce n'est pas d'un invité, » dit Madame Barinck après un moment de silence.
« Alors ?» Au lieu de répondre à sa fille, elle se tourna vers son mari.
« Ton frère est mort. »
Elle lui tendit la dépêche.
« Gaston ? » s'écria-t-il d'une voix qui se brisa dans sa gorge.
Ce fut d'une main tremblante qu'il prit la dépêche.
Triste nouvelle à t'apprendre, Gaston mort subitement à 4 heures d'une embolie, funérailles fixées à après-demain, 11 heures, sauf contre ordre. Fais faire invitation en ton nom. Rébénac.
Mon pauvre Gaston, dit-il en se laissant tomber sur une chaise.
Sa femme le regarda avec un étonnement mêlé de colère.
Tu vas pleurer ton frère maintenant, dit-elle. Un égoïste, avec qui tu es fâché depuis 18 ans et dont tu n'hérites pas.
Il n'en est pas moins mon frère. 18 années de brouille n'effacent pas 40 ans d'amitié fraternelle.
Elle a été jolie, l'amitié fraternelle, qui nous a abandonnés le jour où nous avons eu besoin d'elle.
Tu sais bien que Gaston était d'un caractère entier, qui ne pardonnait pas les torts qu'on avait envers lui,
ni surtout ceux qu'il avait envers les autres.
Ton frère a été indigne envers nous, et plus encore envers Annie, qui, elle, ne lui avait rien fait.
N'aurait-il pas dû lui laisser sa fortune ?
Sais-tu s'il ne lui a pas laissé ?
Est-ce que Rébénac ne te le dirait pas ?
Notaire de ton frère, son ami, son conseil, il connaît ses affaires.
S'il se tait sur elle,
c'est que de ce côté, il n'aurait que de tristes nouvelles à t'apprendre,
c'est-à-dire l'existence d'un testament qui nous déshérite.
Il fait faire les invitations en mon nom.
Serait-elle décente au nom du bâtard de ton frère ?
Si nous ne sommes pas la famille pour l'héritage,
on ne peut pas nous empêcher de l'être pour les invitations, et l'on se sert de nous. Elle serait vraiment jolie, celle qui serait faite de la part de M. Valentin Sixte, capitaine de dragons, fils naturel du défunt, et un fils naturel non reconnu encore. Si, avec ta tête toujours tournée à l'espérance et aux illusions, tu t'es imaginé que tu pouvais hériter de ton frère, parce qu'il était ton frère, tu t'es abusé une fois de plus. Quand vous vous êtes fâché, il t'a bien dit que tu n'aurais jamais rien de lui. Sois tranquille, il a tenu sa parole. Et le notaire Rébénac a aux mains un bon testament qui institue le capitaine Sixte légataire universel. Et pourquoi Rébénac ne le dit-il pas? Dans l'espérance de t'avoir à l'enterrement. N'y serais-je pas allé, quand même j'aurais eu la certitude du testament? Tu veux aller à cet enterrement? Admets-tu que j'y manque? Après avoir remis la dépêche qu'il apportait, Barnabé était entré dans la cuisine et il y restait immobile, ne sachant que faire, écoutant, sans en avoir l'air, ce qui se disait dans le hall. Au lieu de répondre à son mari, Madame Barinck vint à la porte de la cuisine. « En attendant qu'on arrive, préparez vos verres et vos plateaux, » dit-elle. « Ne laissez pas le feu s'éteindre. Vous ne ferez pas chauffer le chocolat avant minuit. » Revenant dans le hall, elle fit signe à son mari de la suivre et passa dans la salle à manger, puis dans le salon, d'où le bruit des voix ne pouvait pas arriver jusqu'à la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que cette folie ? » demanda-t-elle. « Quelle folie ? Celle de vouloir assister à l'enterrement. Ah, n'est-ce pas tout naturel ? Naturel ? D'aller à l'enterrement de quelqu'un avec qui on avait rompu toute relation ? Non. Qui pendant 18 ans ne vous a pas donné signe de vie, bien qu'il vous sût dans une position gênée, alors que lui jouissait de 50 000 francs de rente ? Ah non, non, 1000 fois non ! Tout ce que tu diras ne fera pas que nous n'ayons été frères, que nous ne nous soyons aimés dans nos années de jeunesse, et qu'au jour de sa mort, le souvenir de nos différends s'efface pour ne laisser vivace et douloureux que celui de notre affection fraternelle. Il n'était pas ton frère. Je comprends que tu parles de lui avec cette indifférence. Il était le mien. Je le pleure. Pleure-le tant que tu voudras, pourvu que ce soit en dedans et que tu n'attristes pas notre fête. Tu veux... Quoi ? Il resta un moment sans répondre, stupéfait. Comme je vais partir, je ne vous attristerai pas. Partir ? Par le train de 11 heures. Tu es fou ! Il ne répondit pas et regarda sa fille les yeux noyés de larmes. Et comment comptes-tu partir ? Avec quel argent ? Je te préviens qu'il me reste 15 francs, et ils sont pour Barnabé. D'ailleurs, si tu partais, qui ferait danser notre monde ? Tu veux faire danser ? Pouvons-nous prévenir nos invités ? D'une minute à l'autre, ils vont arriver. Est-il possible de les renvoyer ? En tout cas, alors même que cela serait possible, je ne le ferai pas. Nous nous sommes imposés assez de sacrifices en vue de cette soirée pour ne pas les perdre. D'ailleurs, qui la connaît, cette dépêche ?
Nous ?
Eh bien, faisons comme si nous ne la connaissions pas. Ce sera la même chose. Pour toi, peut-être, qui n'aimais pas Gaston. Pour Annie aussi, qui ne se souvient guère de son oncle. C'est là sa condamnation. Mais pour moi, crois-tu que, sous le coup de cette mort, je pourrais montrer à tes invités un visage affable ? Avant de penser à ton frère, tu penseras à ta fille, je l'espère, et tu te feras le visage que tu dois montrer dans une fête qui est donnée pour elle. Si c'est beau d'être frère, c'est mieux d'être père. Si c'est bien d'être tendre aux morts, c'est mieux de l'être aux vivants. Je t'engage donc à réfléchir, ou plutôt à te dépêcher d'aller t'habiller. » Comme il ne bougeait pas, elle se tourna vers sa fille. « Parle à ton père, » dit-elle. « Fais-lui entendre raison, si tu peux. Moi, j'y renonce. » Les quittant, elle retourna dans la cuisine donner ses derniers ordres à Barnabé.
Après un moment de silence, il tendit la main à sa fille.
« J'aurais voulu ne pas t'attrister, » dit-il, « mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas ne pas penser à cette mort sans une sorte d'anéantissement, comme je ne peux pas me voir condamné à rester ici sans révolte. Et pourtant, tu sais si je suis un révolté. Depuis 20 ans, j'ai terriblement souffert de la pauvreté, mais jamais à coup sûr, autant qu'en cette soirée, en t'entendant parler de ton mariage, comme tu as fait tout à l'heure, et maintenant, en restant là, impuissant. Ah, ma chère enfant, qu'on est malheureux, humilié dans sa dignité, atteint au plus profond de sa tendresse, de ne pouvoir rien pour ceux qu'on aime. Et c'est là mon cas. À la même heure, je te vois prête à te jeter dans le mariage comme dans le suicide, parce que, misérable que nous sommes, tu désespères de l'avenir. Et d'autre part, je ne peux pas davantage donner à mon frère un dernier témoignage d'affection. Oh, misère, que tu es dur à ceux que tu accables !» Il s'arrêta, et, attirant sa fille, il l'embrassa. « Comprends-tu qu'il n'y a rien à me dire, et que, si mes yeux sont attristés, ce n'est pas ma faute ?» Un bruit de voix se fit entendre dans la salle. « Va recevoir tes invités, » dit-il. « Moi, je monte m'habiller. »